secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor.
Les racines du ciel. Une émission de Lily Anvar avec la participation de Frédéric Lenoir. Préparée par Thierry Beauchamp, avec à la réalisation Clotilde Pivin et à la prise de son Cédric Châtelus. Ce dimanche, nous recevons Dominique Bourrel pour évoquer le souvenir d'une sentinelle de l'humanité, un humaniste dans le sens plein du terme, dont le destin, la pensée, peuvent encore, ou en tout cas devraient encore, être pour nous tous, quelles que soient nos croyances religieuses ou nos philosophies politiques, véritablement une source d'inspiration. Il s'agit de Martin Buber, dont Karl Blumenfeld pouvait dire « Je me sens heureux aujourd'hui quand je peux entendre sa voix ». Le penseur, le chercheur, le grand tentateur, l'homme qui eut le courage d'harmoniser Dieu et le monde, le grand combattant de l'humanité, qui a fait advenir à une nouvelle conscience son judaïsme et le nôtre, je le remercie au nom de beaucoup qui, comme moi, ne sont pas en état de le remercier de la manière habituelle, comme je fais aujourd'hui en gratitude. Nous allons donc essayer, grâce à vous, Dominique Bourrel, de faire entendre cette voix singulière, de la faire entendre, de l'écouter et aussi peut-être de le remercier. Bonjour Dominique Bourrel.
Bonjour.
Dominique Bourrel, vous avez été directeur du Centre de recherche français de Jérusalem de 1996 à 2004, professeur invité à l'Université Humboldt de Berlin en 2012-2013 et vous avez mis, pendant tout ce temps, 20 ans pour achever ce monument, je dirais, hein, sur Martin Buber, qui retrace évidemment sa biographie, mais pas seulement en réalité, parce que c'est une biographie intellectuelle dans laquelle vous parlez aussi beaucoup de tout le milieu qu'il a porté, tous les gens avec qui il a dialogué. C'est quand même quelqu'un qui a traversé le XXe siècle, qui a été en contact avec tous les plus grands intellectuels de son époque, qui a aussi traversé la Deuxième Guerre mondiale. Et qui a fini sa vie, en fait, la dernière partie de sa vie, à Jérusalem, où vous habitez d'ailleurs aussi. Et donc, alors, votre éditeur dit que ça fait 20 ans qu'il attend cette biographie. Alors, moi, je ne vous connaissais pas il y a 20 ans, mais je vous connais depuis 4 ans, et moi, je l'attends depuis 4 ans. Donc, je suis très heureuse que vous, qui êtes un très grand spécialiste du judaïsme allemand, vous avez déjà publié un ouvrage qui a fait date sur Mendelssohn, donc, ayez achevé cet ouvrage, et qu'aujourd'hui, nous soyons ensemble pour parler de cette sentinelle, en effet, que fut Martin Buber, que doit être encore aujourd'hui Martin Buber. Alors parlons donc de ce Martin Buber et peut-être posons un peu le paysage intellectuel, spirituel, religieux et sociologique. Alors c'est beaucoup en une seule chose, mais enfin de son enfance, de parce que c'est un homme du 19e siècle qui a en même temps été plus tard un des grands penseurs du 20e siècle.
Ouais, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on a l'impression que en 38, on y reviendra tout à l'heure, quand il part en Palestine, il a déjà 60 ans. Donc on pourrait très bien penser que son travail et sa recherche puissent s'arrêter à ce moment-là. Alors vous avez raison, donc il est né à Vienne, dans cette célèbre Vienne fin de siècle que nous connaissons tous. Et comme ses parents ont divorcé très tôt, il a été élevé par un grand-père et sa grand-mère à Lemberg. Cette ville qui s'appelle aujourd'hui Lviv, je crois, qui a eu plusieurs noms et qui est donc la grande capitale de la Galicie, bien plus importante d'ailleurs et intéressante à mon sens que Tchernovitz, parce que justement là il y a des juifs qui en même temps sont des grands businessmen, en même temps des penseurs, et il y a surtout deux ou trois cardinaux, une bibliothèque, des jésuites. C'est vraiment la métropole de la Galicie, et c'est au contact de son grand-père chez qui il a habité pendant une quinzaine d'années, donc à Lemberg, où il a été scolarisé en polonais. C'est important pour ces textes du racidisme dont on parlera tout à l'heure. Il a là eu une vie finalement très très religieuse, quoi. J'allais dire presque malgré lui. Il a donc été scolarisé en polonais, mais dans un lycée allemand. Et là, avec son grand-père et avec son père, il a commencé à aller voir, visiter tous ces célèbres racidimes, c'est-à-dire ce mysticisme né en Pologne au XVIIIe siècle, qui aujourd'hui nous est presque familier, parce que d'abord on a beaucoup lu ses livres, on voit les gens qui descendent et qui croient dans le Rabbi Nachman von Bratslav, c'est ceux qui sont comme ça très éloquents et que les auditeurs voient à droite à gauche. On les voit aussi bien sûr dans les aéroports et dans tous ces endroits-là. Mais Buber a eu une espèce de contact charnel avec ces gens-là, et je dois dire que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que non seulement Jean Moutapa, mais mon ami Julien Darmon, qui travaillait aussi avec lui, connaissait très très bien cette pensée et cette civilisation. Et donc, il n'y a pas une page, si vous voulez, qu'on ait pu méditer ensemble, parce qu'en fait, quand Buber revient à Vienne, donc dans les années 90, là, il a plutôt une existence de salonnard viennois, pas tout à fait athée, mais pas loin. On racontait qu'il allait directement de la salle de séminaire en frac et en cylindre à la salle de bal, quoi. Hein. Pour lui, c'était un peu la même chose. Et il allait à l'opéra tous les soirs, et il allait aussi au théâtre. Et en fait, il a fait sa thèse sur la mystique chrétienne, comme beaucoup d'ailleurs de ces juifs fortement assimilés. Et en réalité, il va redécouvrir ce chassidisme justement après son premier engagement sioniste, c'est-à-dire dans les années 1905-1906.
Oui, et il fera aussi quand même ses études à Berlin, où il va s'imprégner de philosophie allemande et autres. D'ailleurs, ça aussi, ça aura évidemment une incidence très, très grande sur sa formation intellectuelle.
Voilà, alors ces penseurs allemands, c'était le contraire de chez nous. Hein. Encore aujourd'hui, en Allemagne, quand vous avez fait vos études dans une université, vous passez pour un taré, alors que chez nous, quand vous avez une deuxième université, on pense que vous avez été renvoyé. Mmh. Alors tous ces gens-là, dont Buber, effectivement, donc Buber a été à Vienne, ensuite Buber a été à Leipzig, qui a été très très important pour lui, d'abord parce que c'est Jean-Sébastien Bach, la Saxe, le luthéranisme extrêmement, extrêmement pieux, mais aussi il a rencontré le jeune sionisme, là, il est rentré en sionisme comme on rentre en religion. Il faut rappeler que quand Buber commence ses études, c'est 96, c'est le texte de Herzl, l'État juif, et 97, c'est le premier congrès sioniste. On oublie toujours de mettre ces choses-là en parallèle.
Oui, c'est très important.
Absolument, comme on oublie que la déclaration Balfour de 17 est juste une ou deux semaines avant la révolution russe que nous on appelle révolution d'octobre, parce qu'on fait pas attention à la différence entre le calendrier julien et le calendrier grégorien. Mais vous pardonnerez à un historien de temps en temps de regarder un peu les dates qui sont là. Et donc il a été aussi à Zurich, il a rencontré sa femme, personnalité absolument centrale. J'ai pas voulu d'ailleurs trop en dire, parce qu'elle mériterait elle-même une biographie. Je cherche désespérément quelqu'un qui puisse travailler. Alors elle est aussi graphomane, elle aime pas quand sa fille lui répond pas. Donc c'est des gens qui s'écrivent entre mère et fille pendant 50 ans de suite, avec à peu près 3 lettres par semaine. Donc bien évidemment, tout n'est pas important, mais quand on sait que cette correspondance passe justement après deux guerres mondiales, la Shoah, et en plus la fondation de l'État d'Israël, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et donc Berlin, vous l'avez dit, alors Berlin, c'est la plus grande université du monde à l'époque, hein, il ne faut pas oublier. Nos amis américains qui en ce moment surfent sur les statistiques de Bologne, etc., devraient se souvenir, ils le savent bien d'ailleurs, que la grandeur de l'université américaine, telle qu'elle a commencé à être pendant la République de Weimar, entre les deux guerres et après la guerre, elle est largement due à l'exil des savants de la Mitteleuropa, comme chacun sait, surtout dans nos domaines, de professeurs de littérature, de philosophie, etc. Et donc tous ces penseurs vont d'ailleurs retrouver Buber lors de son premier séjour aux États-Unis. C'est ça qui est très intéressant. Donc Berlin, c'est une université dont on n'a pas idée. D'ailleurs, les professeurs sont des véritables demi-dieux. Il y a un prix Nobel par couloir. C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Il y a d'ailleurs beaucoup de jeunes savants français qui viennent y travailler. On a la liste maintenant, et pas seulement en sciences humaines. Cavaillès, par exemple, vient faire des mathématiques à Göttingen et à Berlin, et beaucoup d'autres. Donc, c'est vrai qu'il a déjà son cursus, si vous voulez, très impressionnant, et il a essayé, à un moment, il s'est demandé s'il allait faire une thèse d'État, c'est-à-dire là-bas, ça s'appelait une habilitation. Il a passé un an à Florence, et ensuite, il est revenu, il s'est retiré des affaires sionistes, et il a commencé à travailler, donc, et à publier ses livres merveilleux sur le chassidisme. Mmh. Un petit mot de sociologie, parce que ça explique, justement, quand même, ses promenades. D'une famille très riche. Le grand-père était, comme étaient ces grands savants de Galicie et dans d'autres endroits, ils étaient en même temps des manias. Il avait des mines de phosphate, le grand-père Buber. Il avait les premiers puits de pétrole, puisque en bout de la Galicie, là, ça commence maintenant, on commence à avoir du pétrole à cette époque-là. Et c'est comme encore aujourd'hui dans certains milieux, c'est sa femme qui travaillait, c'est sa femme qui faisait tourner la boutique, et lui était un des grands spécialistes de la littérature mystique, de la littérature des Midrashim, mais il y avait une personne qui faisait à manger, il y avait une mademoiselle qui apprenait le français, quand on allait en Italie, il y avait aussi une ou deux personnes qui... Et Buber a gardé un peu ce côté grand seigneur, ce qui a agacé forcément ses éminents collègues, après 38 en Palestine, où c'était pas vraiment le genre, et donc un de ses amis, Ernst Simon, disait finalement, il y a qu'un socialiste religieux comme Buber qui peut se permettre d'avoir encore deux personnes à sa disposition chez lui.
Oui. Alors, justement, vous avez parlé de la demoiselle qui parlait français, vous avez parlé de la Pologne, de l'Allemagne. Une des caractéristiques, en fait, peut-être aussi de l'époque de Buber, qu'on a totalement oublié aujourd'hui, avec les difficultés qu'on a même à penser l'Europe, c'est que l'Europe, c'était à la fois des personnes qui parlaient plusieurs langues européennes et des gens qui circulaient. Vous avez dit Berlin, Zurich, Galicie. C'est-à-dire qu'on circule dans l'Empire austro-hongrois jusqu'en Allemagne, jusqu'en Suisse, jusqu'en France, sans problème. Et cette judéité-là, Buber en est vraiment un des plus remarquables représentants.
Oui, vous avez raison. Pendant un moment, j'essayais même, je m'étais dit, je vais faire une biographie, comme on disait à l'époque, à l'américaine. C'est-à-dire, je vais essayer de le suivre quasiment, pas jour par jour, mais tous les mois ou tous les ans. Et on n'y arrive pas, parce qu'il est jamais au même endroit, il est dans les trains, il y a tout un petit groupe, là, qui travaille avec lui. Alors, il est à Prague, bien évidemment. J'étais content, je pourrait y avoir presque une page où vous avez dans le même endroit à Prague, Einstein, qui enseigne, Claudel, qui est notre consul général, oui. Buber et probablement d'autres. C'est absolument hallucinant. Et ce qui est vrai, c'est que de temps en temps, on a du mal un peu à suivre tous ces gens-là. Et n'oubliez pas quand même que c'est l'Empire austro-hongrois. Hein. La Prusse était tout à fait autre chose. C'est l'Empire austro-hongrois où il y a 10 nationalités, 20 religions, tout ce qu'on veut. Et d'ailleurs, les gens sont très éloignés. On parlait de Tchernovitz et de la Galicie et de Lemberg, mais il y en a qui, effectivement, par exemple, n'allaient jamais à Vienne. Des gens de Vienne qui étaient jamais aller plus loin que justement le Ring et ce qui entourait Vienne. Donc c'est vrai que c'est des grands empires dans lesquels on se promène volontiers. Et alors j'ai retrouvé des passeports, par exemple. Les passeports sont des véritables bandes dessinées, quoi, hein, dans toutes les langues, bien sûr. Et les circuits, j'aimerais une fois essayer de faire une carte comme ça entre ces circuits de ces grands intellectuels. En plus, il est comme Heidegger. Après, il a pas voulu habiter une grande ville. Il a pas voulu rester. Il a enseigné à Francfort, mais il ne voulait pas habiter à Francfort. Et il est resté à Heppenheim, qui est un petit village entre Heidelberg et Francfort, parce que c'est des gens qui avaient, comme certains d'entre nous, mais on sera les derniers, qui avaient 15 000 livres à la maison, et que ce n'est pas très pratique, les 15 000 livres, quand vous devez habiter Berlin. Même quand vous êtes de la famille de Walter Benjamin, dans la partie friquée de Berlin, il y en avait quand même, ça commençait à coûter quand même un peu de la place et un peu cher.
Alors, oui. Alors justement, ce qui m'intéresse dans cette géographie qui est une géographie de l'unification intellectuelle, c'est que Martin Buber, il va porter ça dans sa pensée d'une manière très forte. C'est-à-dire qu'il va retrouver... alors, vous allez nous parler de la spécificité de son sionisme, qui justement n'est pas un sionisme de division du peuple juif, mais d'une certaine façon, il tient ensemble l'intégration et les spécificités du judaïsme, et vous allez nous expliquer en quoi ça consiste. Et puis après, on le suivra dans la suite de son trajet, qui, à mon sens, est toujours un trajet vers un projet d'unification et non pas de division. Oui, en cela, il est très emblématique, en fait, de cet idéal qui s'est perdu avec la guerre, au fond.
Oui, vous avez tout à fait raison. Et en plus, il est devenu le centre de plusieurs galaxies. Vous comprenez, très vite, comme c'était quelqu'un qui parlait 9 langues, qui parlait volontiers, qui écrivait encore plus, comme je vous l'ai dit, et qui avait d'ailleurs un certain charisme, il faut bien le dire, qui jouait d'ailleurs de ce côté un peu prophétique. Et puis, c'est quand même un homme du dialogue. Donc, la première des choses qui l'intéresse, c'est de parler aux gens et d'écouter ce que les gens ont à dire. Alors aussi, pour nous, c'est un peu passé, forcément, cette époque-là. Le sionisme de Buber est un sioniste qui est un sioniste humaniste et qui, surtout, est un sioniste qui est extrêmement bien informé sur ce qui se passe en Palestine à l'époque et donc qui fait partie de cette tradition qui a été par exemple signalée par Radaham et d'autres penseurs que maintenant on commence d'ailleurs à bien connaître aussi en France, qui étaient simplement les gens qui avaient fait la découverte, qui n'était pas une très grande découverte, mais qui avaient des gens qui étaient là, qui étaient des Arabes qui étaient là et que bien sûr on ne pouvait pas les traiter comme s'ils n'existaient pas. Alors il faut bien s'entendre, pour Buber, la Palestine est une terre juive, c'est-à-dire que les Juifs qui reviennent en Palestine, à Jérusalem surtout, ils reviennent chez eux. Ça fait aucun doute pour lui. Simplement, comme il a toujours dit, dit, on est revenu par la mauvaise fenêtre ou par la mauvaise porte, et on a fait comme si les gens qui étaient là depuis longtemps n'existaient pas. Il faut ajouter que pendant longtemps, ce patriciat palestinien, qu'aujourd'hui on commence à connaître et qu'on commence à comprendre, a fait partie des chutes historiographique tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire, pendant des années, on n'avait aucune idée de qui étaient ces gens-là. On ne savait d'ailleurs même pas s'ils étaient chrétiens ou musulmans. C'est quand même la première des choses à faire. Deuxièmement, on ne savait pas où ils avaient étudié, on ne savait pas où ils étaient. Et petit à petit, justement, en travaillant autour de penseurs comme Buber, qui a habité pendant un moment dans la partie arabe de Jérusalem, où là, il parlait avec soit des musulmans, soit des chrétiens, en tout cas des arabes de Bethléem, depuis 10 générations, qui étaient des gens qui, comme lui, avaient fait leurs études à Vienne, à Berlin. On a naturellement totalement occulté ça, parce que peut-être ils se sont aussi occultés eux-mêmes, que les Arabes qui venaient parler avec Buber étaient des gens qui ont été tout de suite extrêmement suspects. Je ne nie pas toute la difficulté, je ne parle même pas du problème linguistique, qu'il faut quand même arriver aussi à lire ses carnets, à lire les jours, les journaux arabes de cette époque, puisqu'il a tout de suite, dès le début de son engagement sioniste, fait inlassablement, vraiment comme Cassandre, comme une voix toute seule dans le désert, en disant « Faites attention, il y a des gens qui habitent là-bas, il faut qu'on s'entende avec eux avant de créer un État. » Quand ils ont fondé l'université hébraïque en 1925, par exemple, il était très lié avec les arabisans. Et les arabisans allemands qui sont venus enseigner à Jérusalem, eux, ils allaient parler, bien sûr, avec les arabes de la vieille ville de Jérusalem. Et ils se retournaient vers Gershom Scholem et tous nos grands Herr Professor, et ils leur disaient « Mais vous avez pas vu, là, ils ont fait grève le jour de l'ouverture de votre université. Balfour était invité, comme il se doit, donc forcément... » Il y avait la grève. Donc, si vous voulez, il était extrêmement... Il savait, lui, pas l'arabe, mais il était extrêmement au fait, jusqu'en 65, jusqu'à sa mort. Tous ces groupes, le Brit Shalom, par exemple, l'Alliance pour la Paix, le Ihoud, qu'il a essayé de monter pendant la guerre, il traduisait des textes en arabe, il faisait donner des cours d'arabe à la jeune génération. C'était vraiment des gens qui ont essayé jusqu'au dernier moment de faire en sorte qu'on n'arrive pas aux catastrophes comme aujourd'hui. Alors, effectivement, en 46, en 47, quand il y a 6 millions de morts, on peut comprendre que à ce moment-là, la tension, si je puis dire, est un peu baissée de ce côté-là, et que Ben Gourion, qui était un réel politiqueur, ait dit « Écoutez, tout ça, c'est bien gentil, mais nous, on a besoin d'un petit département français pour mettre les Juifs qui sont des rescapés, et puis pour recueillir tous les gens qui vont venir. » Mais même quelqu'un comme Ben Gourion avait un immense respect devant Buber aussi, d'ailleurs, et donc ils sont effectivement tous les deux un peu en miroir, quoi, hein, d'un côté. Et puis alors le sionisme qui se met à gagner des guerres, comme c'était le cas au début, et d'ailleurs c'est la seule issue qui restera à ce petit pays, c'est de gagner des guerres, c'est toujours ça le problème, c'est qu'il faut toutes les gagner, alors que les autres ont besoin de gagner que la dernière. Ce petit pays, même ça, c'était quelque chose que Buber a profondément ressenti, et il a tout essayé jusqu'à un ou deux mois avant sa mort pour intervenir, pour les réfugiés, pour supprimer le gouvernement militaire, etc.
Peut-être qu'il faudrait expliquer, parce qu'au fond, je ne suis pas sûre que tous nos auditeurs, et moi y compris d'ailleurs, saurions donner une définition du sionisme. Parce qu'en fait, vous parlez des nuances, de la différence par exemple entre Buber et Herzl. C'est vrai qu'on associe plutôt le sionisme à Herzl. Mais quelles sont les nuances, et finalement, pourquoi on appelle ça le sionisme? Et qu'est-ce que, en un mot, est-ce qu'on peut en une phrase définir ce que c'est que le sionisme?
Ah oui,
parce que finalement, peut-être que si on le savait, on ne réagirait pas de manière aussi absurde à l'actualité.
Peut-être, oui, simplement. Le sionisme, c'est comme son nom l'indique, c'est le retour à Sion, ou la vie à Sion, donc dans l'équivalent de la Palestine mandataire de l'époque, des Juifs. C'est-à-dire l'idée que les Juifs ont droit à un pays. Ils n'en ont pas eu pendant 20 siècles, et ils pensaient eux-mêmes, et d'autres gens pensaient, que le fait d'avoir un pays, allaient régler, sinon tous leurs problèmes, ce que moi, comme vous savez, je ne crois pas du tout, mais j'ai une interprétation tout à fait autre. Je pense qu'il y a un mystère d'Israël, un mystère du monde juif, et même mes amis israéliens, quand ils entendent ça, pour eux, c'est de la théologie. Donc, l'histoire de dire on revient chez nous, c'est Titus qui nous a renvoyés, et maintenant on revient, et on est en fait des vieux Mésopotamiens, on va changer nos noms, et on va devenir des personnages bibliques, et nous, nous sommes hébreux. Vous comprenez bien que quand vous voyez Einstein, Freud, etc., vous trouvez que c'est quand même des visages de Mésopotamiens qui nous ressemblent un peu beaucoup, quoi. Mais en réalité, le sionisme, c'est l'idée que une partie du peuple juif, ou tout le peuple juif, plutôt d'ailleurs une partie du peuple juif, parce que c'est Herzl qui était lui-même très assimilé, les gens autour de Herzl, vous savez, c'était la dernière blague, disaient « Bon, mais il va faire un État juif et nous, on prendra l'ambassade de cet État à Vienne. » Donc, on veut bien continuer de jouer à ça, mais en fait, on va quand même être ambassadeur à Vienne, etc. Simplement, c'était l'idée que les Juifs, pour éviter les pogroms, pour arrêter le numerus clausus, l'affaire Dreyfus, enfin l'histoire de l'antisémitisme, que le sionisme allait être une réponse à l'antisémitisme. Et en réalité, il s'est avéré que c'était le contraire, si je puis dire. Et très tôt, des penseurs juifs de très gros calibre ont dit, faites attention, c'est vraiment pas la bonne solution. Le grand penseur Yeshayahu Leibovitz, qui est mort il n'y a pas très longtemps, disait aussi, bah, maintenant, le jour où on voudra tuer 3 millions de juifs, on saura où les trouver. Donc, vous voyez, il y a une espèce de cynisme comme ça épouvantable.
Oui, oui. Et alors, est-ce qu'on peut pas dire aussi, parce que de ce que j'ai lu des extraits que vous donnez, d'abondants extraits que vous citez dans votre livre, c'est que peut-être aussi que le sionisme classique, le premier sionisme, est très politique et souvent, les juifs qui sont à la tête de ces mouvements-là ne sont pas des religieux, ni même des spiritualistes. Alors que la grande différence, c'est que Martin Buber ne peut pas séparer sa pensée politique de ses profondes convictions spirituelles. Alors, vous avez dit, il a été tenté par l'athéisme. Certains l'ont d'ailleurs traité d'athée. Mais en réalité, son bagage hassidique fait qu'il a quand même gardé cette idée qu'on ne peut pas dissocier l'idée même de judéité d'une spiritualité juive.
Et même d'un rapport, privilégié ou pas, probablement un peu, avec l'inconditionné. C'est-à-dire que même, on verra les critiques de Gershom Scholem, des historiens, tout ça, c'est très gentil. Il était d'ailleurs prêt à les accepter. Il disait toujours, mais le problème, c'est que c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport de l'homme avec l'inconditionné et la manière dont cet inconditionné me parle à travers de la Bible. Et d'ailleurs, la Bible, il dit « tu ». Le jeu est tu, hein. Tu ne tueras pas, tu n'auras pas, etc., etc. Donc c'est vrai que ça a traversé la vie de Buber avec justement plusieurs modalités, le chassidisme, la traduction de la Bible, la philosophie, la science politique, la religion comparée aussi. Il y a un gros aspect de son travail, ou d'ailleurs par incompétence, j'ai pas pu beaucoup en parler, ses traductions et ses réadaptations des textes du Tao, le Kalevala, qui est un texte central pour les Finnois, un texte celte, il faisait aussi beaucoup de religions séparées, parce que le fameux volume qui s'appelle Les Confessions extatiques, hein, où il y a justement qu'est-ce que c'est qu'une extase. Il y a que d'ailleurs un ou deux textes sur le judaïsme, il y a des tas d'autres choses qui l'ont intéressé. Les esprits malins d'ailleurs et chagrins remarquent que le premier ouvrage sur le chassidisme qui sort dans du chassidisme qui sort en 1906, il est signé de Ravenne et de la Toscane. Donc comme j'ai dit en souriant, j'ai enlevé un peu, mais ce chassidisme est aussi quand même justement encore un peu éclairé du soleil de Toscane, et on sent quand même pas beaucoup les gens autour de Königsberg et un peu plus dans cette Galicie.
Oui, d'ailleurs, certains penseurs juifs le traitent, si j'ose dire, si j'ose ce mot, de néo-chrétien, enfin quasi comme un
ayant des penchants chrétiens. Absolument, on a beaucoup trouvé de choses contre lui, parce que justement, ça permet de ne pas parler des choses les plus importantes, comme ce dont on vient de parler avec la question arabe. Alors là, tout y passe, on se demande si sa femme s'est vraiment convertie, si son fils est circoncis, si vraiment il savait bien l'hébreu, si vraiment il connaissait ceci, cela. En réalité, quand vous creusez ça, vous vous apercevez que la seule chose qui reste entre la gorge des gens qui l'aiment pas, et on comprend très bien, c'est, comme dirait l'autre, parce qu'il a eu raison trop tôt. C'est parce que les choses qui vont probablement arriver, il faut espérer, non pas d'ailleurs cet état binational qui rime à rien, mais cette espèce de confédération qui arrivera. Vous comprenez, quand il y a 5, 6, 7 millions de migrants par an maintenant, on va pas jouer à faire des petites Albanies. C'est ça, là, nous avons rien, ni vous ni moi, contre l'Albanie. Il y a une très belle lettre de Stefan Zweig où il lui dit, avant la Première Guerre mondiale, où il lui dit, mais attendez, on va pas refaire une petite Albanie dans un coin avec des décorations, des drapeaux et des fusils. Et Buber dit, même pas en rêve, en disant qu'il n'y a pas question. Alors que effectivement, l'époque est plein de nationalisme. Hein. Vous avez les Ukrainiens, vous avez les Autrichiens, vous avez les Hongrois. Chacun veut y aller. Ils ont tous une langue, ils ont tous un texte fondateur, ils ont tous un pays. Donc, je vois pas pourquoi les jeunes juifs n'aient pas regardé là en disant, ben, écoutez, nous aussi. Surtout qu'après la Première Guerre mondiale, comme vous savez, ils se sont quand même aperçus que la guerre, c'était un juif qui tue un autre juif. Et donc, très tôt, Buber, qui a été pendant quelques semaines ou quelques mois très, comme ça, en faveur de cette guerre, non pas d'ailleurs contre la France et l'Angleterre, mais justement pour sauver les juifs russes de ce qui pouvait être sauvé, il a dit, écoutez, on arrête tout, parce que finalement, c'est pas notre guerre. Finalement, c'est pas ça qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, c'est bien évidemment arriver et venir en Palestine et à Jérusalem. La grande différence aussi, la dernière, c'est que, comme vous avez très bien dit, Herzl, c'était un sioniste politique. C'est-à-dire qu'il pensait que les consuls, j'allais dire les papes, le pape, le Kaiser et tous ces grands hommes allaient octroyer, donner aux juifs même un petit lopin de terre en disant comme ça ils vont arriver avec leur médecin, leur université, ils vont payer la dette ottomane et ça ira très bien. Et très vite, les jeunes justement comme Buber, comme Weizmann, comme tous les gens qui l'entouraient ont dit jamais on nous donnera un lopin de terre. Il faut le prendre, jamais on va nous octroyer cette petite terre, même si elle est absolument ridicule. Et alors ça, c'est ça qui a fait la grande différence. Herzl est mort très tôt, hein, en 1904. C'est ça qui a fait la grande différence entre ce sionisme uniquement politique et puis ce sionisme qui était justement humaniste, éclairé, et le débat d'ailleurs existe encore aujourd'hui. Pendant un long moment, la gauche israélienne, mais les cartes, vous comprenez, ont tellement changé après la Shoah, après 67, tout ça ne veut faut pas dire ne veut plus rien dire, mais veut dire quelque chose d'autre. Et les derniers événements disent aussi quelque chose d'autre. Parce qu'encore une fois, il est absurde de penser que c'est ce petit lopin de terre qui va rester comme un petit, alors faut pas le dire trop fort, mais qui va rester comme un petit état avec des canons, des Mirage 4, des prix Nobel et 3 universités au milieu de ces millions de gens qui sont en train de bouger dans tous les sens.
Oui, alors, aussi, autre chose, c'est que j'ai l'impression, vous avez dit, ça leur est resté en travers de la gorge. J'ai l'impression, en vous lisant, que, en fait, ce qui reste en travers de la gorge de certains, c'est précisément ce qui fait que, alors, moi ou d'autres, enfin, ou vous, j'ai l'impression, avons un attachement très profond. Enfin, on ne peut pas s'empêcher de trouver Buber extrêmement attachant. Parce que, de là où il ne parle pas au nom d'une communauté. J'ai vraiment l'impression que pour lui, la réalisation du judaïsme, et c'est peut-être sa connaissance de la tradition hassidique qui l'a amené à cette conclusion, c'est que la réalisation de la tradition juive, c'est d'une certaine façon la réalisation de l'humanité. Il ne dissocie pas une communauté de la grande communauté humaine et il pense que le judaïsme a un travail à faire qui est un travail qui est de faire œuvre humaine et que d'une certaine façon, quand on est un lecteur de Buber, on devient juif avec lui et par conséquent humain.
Oui, c'est tout à fait vrai, parce que quand Ben-Gourion, à chaque fois, lui parlait de l'État, alors à chaque fois, Buber lui disait, mais arrêtez avec votre État, vous faites un État, mais vous le faites pourquoi? Pour qui? On va pas tourner comme ça en disant, nous, on a un État comme les autres, et on n'a pas attendu 2000 ans pour avoir un État comme un État pour les autres. Donc effectivement, c'est quelque chose qui dépasse, bien sûr, une nationalité et une communauté. C'est vrai que dans les temps où il vivait, c'était quand même assez difficile, et on pouvait comprendre qu'on avait du mal à comprendre ces choses-là. Mais moi, je fais partie des gens qui pensent que ça va devenir, encore une fois, de plus en plus actuel. D'ailleurs, Buber est maintenant relu, retraduit. On vient de retraduire Je et tu en hébreu. Yossi Beilin a refait une édition de ces textes politiques. Et une grande partie, pendant un moment, en tout cas de la gauche israélienne, avait été nourrie de cette pensée.
Alors justement, alors le jeu est-tu, expliquez-nous quand, dans quelles circonstances a été publié et finalement en quoi est-ce que il y a quelque chose sur le plan philosophique qui est révolutionnaire dans
Alors le jeu est-tu est effectivement un livre très intéressant, fascinant, un livre piège parce qu'il est d'abord souvent ramené à son titre, la philosophie du dialogue, le jeu est-tu, donc tout le monde est très content. Le grand professeur de Harvard, Hilary Putnam, qui vient de faire encore un livre sur la philosophie comme guide de vie ou quelque chose comme ça, il a repris Je et tu, et il a dit, mais finalement, à chaque page, on est un peu bloqué, on a un peu du mal à savoir sur quelle corde, si vous voulez. Alors, en deux mots, c'est très simple, si on peut dire. Pour moi, Buber est dans la lignée et dans la tradition de ces grandes pensées juives allemandes, donc en tout cas Hermann Cohen et Franz Rosenzweig, qui sont aujourd'hui d'ailleurs assez bien connus en français, très bien traduits, commentés, etc., qui est que le but de la philosophie, qui devient d'ailleurs plutôt une anthropologie, est de dépasser ou plutôt de refuser la métaphysique classique de l'époque. Comme disait Rosenzweig, des Iliniennes à Iéna, c'est-à-dire de Parménide à Hegel. Et chacun de sa manière, Hermann Cohen avec l'idée de corrélation, Franz Rosenzweig avec le début du Stern de l'étoile de la rédemption par la mort, et Buber avec l'idée que le début, c'est une rencontre. Avant la distinction sujet-objet, avant les distinctions métaphysiques, il y a un je et il y a un tu. Comment ? Justement, le je n'existe que parce qu'il y a un tu, et le tu lui-même décerne, si je puis dire, un brevet de je-étude au je. Alors là, il faut s'arrêter tout de suite, parce que bien sûr, nous en France, on le lit après avec les lunettes de Lévinas. Lévinas qui doit beaucoup à Buber, qui d'ailleurs l'a toujours dit. Mmh. Moi, j'ai été un de ses élèves, enchanté pendant, à la Sorbonne pendant quelques années. Et on sait que la position de Lévinas est une position où le « tu » est en surplomb. « Je » est l'otage de l'autre. Et il a accusé Buber d'avoir une réciprocité, de dire en réalité, votre « je » et votre « tu », ils sont un peu interchangeables. Et là où c'est fascinant, c'est que il a fait par écrit, dans un volume d'hommage à Buber, comme on faisait à l'époque, qui est une collection très célèbre, qui s'appelle « The Library of the Living Philosophers ». Donc on a un Cassirer, on a un Ricoeur. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est une trentaine de savants de toutes les disciplines, enfin des disciplines touchées par cet auteur, font un article sur lui avec des questions et l'auteur répond à la fin. Donc on a 80 pages de Buber qui répond à ça et qui dit « Mais monsieur Lévinas, moi j'ai jamais dit que c'était une espèce d'amitié éthérée et de chose qui est interchangeable. Je pense que justement ce qui est fondamental, c'est d'un côté le je et le tu et de l'autre côté le je et le ça, c'est-à-dire le moment où on devient le on, le s ». Je rappelle aussi, les psychanalystes ont déjà capté que « Je et tu » s'est publié en 1923, l'année où Freud publie « Le je et le ça mm-hmm. », ou « Le moi et le ça », ça dépend comment on traduit. Donc, si vous voulez, pour Buber, c'est ça qui est important, c'est de faire une différence entre le monde du « je et tu ». D'ailleurs, il dit « ce sont des mots racines hein, », c'est le mot racine « ich und du », et l'autre mot racine, l'autre alternative, c'est « je et il ». Et alors, vous imaginez que toutes les philosophies de l'altérité continuent d'ailleurs aujourd'hui de savoir est-ce qu'il y a une violence, comment ça communique, où est le non, où est le on et où est le nous. Parce qu'on lui a dit, c'est bien joli, le je et le tu, et le je et le... On voit bien qu'il y a que le je et le ça, c'est quelque chose qui est minoré, c'est quelque chose qui est moins intéressant, c'est la technique, c'est tout ce que vous voulez. Mais on... Et puis en plus, le je et le tu, c'est une extase pour Buber. À la fin, on voit bien dans les derniers textes, c'est une révélation, quoi. Et il le dit bien, le je et le tu, c'est l'antichambre du tu éternel.
Voilà, et on revient au hassidisme.
Et voilà, bien évidemment. Et il a dit lui-même, d'ailleurs, quand on lui dit « mais donnez-nous des exemples », il dit par exemple le tzaddik avec le hassidisme, c'est-à-dire que les gens qui ont un accès direct avec l'inconditionné, sans passer par la théologie, par Dieu, par des rabbins, par des institutions. Ça, c'est la critique habituelle de la mystique à toutes les institutions. Il suffit de lire de Michel de Certeau, il suffit de lire aussi le révérend père Henri Brémond, S.J., l'histoire littéraire du sentiment religieux, où on voit bien que c'est d'ailleurs tout ça est à la fin du 19e et au début du 20e. On voit bien toutes ces religions qui devaient être salon fait, c'est-à-dire qui devaient être bien présentables, qui devaient être un peu décoration sur canapé, comme ça, une espèce à la Brunswick, quoi, pour les juifs, ou comme ça. Tout ça explose avec cette découverte des discours mystiques, avec cette manière tout à fait autre, cette espèce de côté sous-cutané, ce volcan sous-cutané, qui en réalité est un des seuls moyens de faire une rejuvénation. Un petit coup de jeunesse et de passer d'ailleurs un palier pour ces religions. Et pour le monde juif, ça a été la grande aventure et la grande histoire de Buber.
Oui, et la question justement de la relation intime avec, alors dans la tradition hassidique, on l'appelle le saint béni soit-il. Expliquez-nous peut-être aussi d'abord ce que c'est qu'un tzaddik dans cette tradition et comment Buber s'inscrit là-dedans, il devient presque un sadique quand il se met à parler, c'est-à-dire, et c'est peut-être ça aussi qu'on lui a reproché.
Voilà, absolument, parce que du coup, il a tout de suite dit, non, mais moi, je suis pas un sadique, je suis un peu de l'extérieur, mais c'est donc, le sadique, c'est l'intermédiaire, justement, entre une communauté qui prie en même temps, même maintenant, on les découvre, hein, après la chute du communisme, la chute du mur, etc., qui sont en même temps, enfin, ces racidismes-là, qui sont des Polonais, qui dansent tout le temps, qui chantent tout le temps, qui boivent des petits coups, même des grands coups, et forcément, la religion religion des professeurs et de nos amis prix Nobel, comprenez, regardez ces types-là, surtout à Berlin et en Allemagne, ces fameux Ostjuden, où on se... mais c'était le gros du judaïsme, c'était le gros du sionisme. Oui, et Buber leur dit, mais ne les méprisez pas. Et là, on voit le Viennois, parce que les autres que nous admirons tous, le professeur Scholem, les Berlinois, etc., c'est des gens qui étaient extrêmement arrogants, qui n'avaient... Pour eux, ces gens-là étaient... mais c'était insupportable, c'était même pas des juifs, c'était des pauvres, la plupart du temps, c'était d'ailleurs le cas. Là aussi, c'est des centaines de milliers de personnes qui s'en vont, qui fuient les pogroms pendant deux ou trois générations. Hein. Et donc, ce racidisme-là, si vous voulez, a beaucoup marqué Buber. Et c'est vrai que ce tzaddik, cette relation qui est unique en réalité, entre... faut pas dire gourou parce que c'est pas ça, mais on voit bien le maître d'une communauté. Et du coup, pour donner un exemple, il y a un texte absolument extraordinaire que vous allez me permettre de lire, qui est tout à fait symbolique de ça et qui montre bien l'idée comment se fonctionne une transmission avec ces groupes et avec ce tzaddik. Quand le Baal Shem avait une tâche difficile devant lui, il allait à une certaine place dans les bois, allumait un feu et méditait en prière. Et ce qu'il avait décidé d'accomplir fut fait. Hein, c'est les fameux Wunder Rabbi, les gens qui font des miracles simplement en parlant et en racontant les petites histoires qu'avait traduites et adaptées Buber. Quand, une génération plus tard, le Maguid de Meseret se trouva en face de la même tâche, il alla à la même place dans les bois et dit « Nous ne pouvons plus allumer le feu, mais nous pouvons encore dire les prières ». Et ce qu'il désirait faire devint la réalité. De nouveau, une génération plus tard, Rabbi Moshe Leib de Sassov eut à accomplir cette même tâche. Et lui aussi alla dans les bois et dit « Nous ne pouvons plus allumer un feu et nous ne connaissons plus les médiations secrètes qui appartiennent à la prière. Mais nous savons la place dans le bois où cela s'est passé et cela doit être suffisant. » Et ce fut suffisant. Mais quand une autre génération fut passée, et quand le rabbi Israël de Rishin, invité à accomplir la même tâche, s'assit dans son fauteuil doré, dans son château, il dit « Nous ne pouvons plus allumer le feu, nous ne pouvons plus dire les prières, nous ne savons plus la place, mais nous pouvons encore raconter l'histoire, comment cela s'est fait. » Et, ajoute le conteur, « l'histoire qu'il raconta eut le même effet que les actions des trois autres. »
C'est extraordinaire parce que c'est exactement ce texte que j'avais l'intention de vous lire, donc vous l'avez fait à ma place et c'est parfait. Mais c'est intéressant que j'ai eu la même idée parce que, alors justement, je voulais vous faire parler de cette évolution-là, c'est-à-dire qu'en quoi est-ce que Buber, en racontant cela, qu'est-ce qu'il nous dit de l'histoire de cette communauté qui est en même temps une parcelle d'humanité.
Il y a une parcelle d'humanité et aussi en même temps, on le sent bien, il y a un déclin quand même. Oui. Hein, à la fin, on ne connaît plus les paroles, on ne sait plus là. D'ailleurs, le dernier Ritschiner, il est dans un château, puisqu'il y avait toute une série de chassidim qui étaient justement, au contraire, de ces gens à paillettes et en caftan qui buvaient un peu d'alcool en écoutant des petites histoires et en attendant un miracle fait par le rabbin. Il y en avait d'autres qui pensaient que la richesse était précisément un témoignage qu'on rende à Dieu et que les Juifs ne devaient pas rester avec leurs bouclettes et rester pauvres comme ça, mais au contraire, devaient avoir des châteaux, devaient avoir de l'argent. C'est un peu à la Max Weber, hein, qu'une partie du salut est déjà fait sur Terre. Donc ce qui est fascinant dans Buber, c'est qu'il a compris justement aussi et ce déclin et ce ressac et ce déclin et cette lave qui chemine et cette opération sous-cutanée qui, malgré toutes ces déceptions, malgré tout ce déclin, malgré cette décadence, qu'en réalité, la véritable, c'est pour ça que c'est quand même un optimiste, la véritable décadence, elle n'existe pas. En réalité, même du fond de la décadence, et c'est un enseignement d'ailleurs profondément talmudique, du fond de la décadence, il y a aussi déjà le retour qui se fait, et effectivement, quelque chose comme, en passant par la révélation, de la rédemption.
Oui, et d'ailleurs, en cela aussi, c'est un penseur pour aujourd'hui, c'est-à-dire que ça nous permet... Il nous donne les outils, en fait, à la fois philosophiques et spirituels, de penser comment revivifier quelque chose qui, évidemment, a ses racines dans le passé, mais qui doit devenir complètement vivante dans chaque personne qui se dit, en tout cas, tenant d'une tradition.
Oui, il l'a même mis en pratique, parce qu'alors, après la Deuxième Guerre mondiale, il fallait, j'allais dire, se réconcilier avec tout le monde. Et il a pris vraiment son bâton de pèlerin, et il a recommencé à vouloir parler, sinon à l'Allemagne, du moins aux Allemands, aux chrétiens, Et à tous ces gens-là qui s'étaient coupés, qui avaient lâché en pleine dérision et en pleine défaite ce monde juif, quoi. Hein. Il y avait vraiment toute une série de gens qui ne voulaient plus avoir de contact avec l'extérieur, et on aurait eu ce réflexe à moins. Et donc inlassablement, il a dit, il faut recommencer après ce qui s'est passé malgré tout, et on va recommencer petit à petit avec l'Allemagne, d'abord avec les résistants, ensuite avec les gens qui ont été un peu au milieu, et avec les chrétiens. Et il y a même une histoire assez étonnante, parce qu'il avait un de ses anciens élèves de Leipzig qui travaillait avec les Suédois. Et très vite, dans les années 50, les Suédois ont voulu refaire un institut d'études chrétiennes, notamment pour les pasteurs, à Jérusalem. Et bien sûr, il y a eu beaucoup d'opposition. Et Buber a été un des premiers à dire non, mais en plus, lui, le patron, je le connais, c'est un de mes anciens étudiants. Ces Suédois ont d'ailleurs été, comme chacun sait, extrêmement courageux pendant la guerre, ont caché des Juifs, y compris à Berlin, dans leur ambassade. Et donc, très vite, dans les années 50-51, il y a ce Swedish Theological Seminary, qui existe d'ailleurs encore aujourd'hui, qui a commencé à exister, où les gens apprennent l'hébreu et enseignent en hébreu et travaillent sur les textes de la tradition juive. Donc, vous voyez, pour lui, c'était pas, j'allais dire avec un sourire, c'était pas de la philo, tout ça, quoi. Il fallait vraiment
le vivre, et
avec une opposition formidable. Vous pouvez pas empêcher des gens qui avaient eu toute leur famille gazée à Auschwitz, qui n'aient pas envie de recevoir des jeunes Allemands, de voir des étudiants allemands. Mmh. Max Horkheimer, qui fait partie aussi de cette grande galaxie judéo-allemande, qui est parti avec l'école de Francfort, comme on sait, aux États-Unis pour revenir, qui a été le premier recteur de l'université de Francfort, où Buber avait enseigné avant, il a écrit, il y a une lettre bouleversante à Buber et au recteur de l'université hébraïque, qui s'appelait Moshe Schwabe, qui d'ailleurs était l'ancien directeur du lycée de Kaunas, où était Lévinas, bien évidemment, et il a dit, écoutez, moi, mes étudiants veulent venir, c'est pas possible avec ce qui s'est passé, les gosses de 18 ans, de 20 ans, là, eux, c'était pas des SS, ils appartiennent à un pays qui est une catastrophe, où leurs pères ont été battus, perdu un bras à Stalingrad, gardien de camp, etc. Ils veulent venir. Et une lettre extrêmement digne en disant, c'est une lettre de 50-51, quoi. Disant, écoutez, pas tout de suite, quoi. On peut pas, alors Buber, il n'y a pas de problème. Il a 70 ans. C'est un grand penseur. Il craint personne. Mais il y a eu des attaques à la Knesset. Quand Buber a eu son prix Goethe de Hambourg en 51, il y a un député de la Knesset qui a même pas voulu nommer son nom en disant, qu'est-ce que c'est que ce professeur de l'université hébraïque qui accepte un prix des Allemands? Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui, inlassablement, jusqu'à ses rapports avec le secrétaire général, Dag Hammarskjöld, le secrétaire général de l'ONU, qui le reçoit plusieurs fois et qui, vous vous souvenez, enfin on était un peu trop jeune, mais a été assassiné dans son avion, et il était en train de traduire en suédois le jeu étu de Buber.
Alors, on arrive malheureusement trop vite à la fin de cette émission, et je voudrais, dans les quelques minutes qui nous restent, évoquer aussi le Martin Buber, traducteur de la Bible, parce que ça, c'est une chose évidemment extrêmement importante. Alors, dites-nous quelques mots de cette traduction.
Oui, alors c'est une opération tout à fait extraordinaire, hein, qu'il a commencé en 1925 avec ce Franz Rosenzweig dont on a parlé tout à l'heure, qu'il a terminé donc d'abord en un premier temps en 1929 parce que Rosenzweig est mort, et qu'il a reprise après en Israël, et qui a été terminé en 61 avec d'ailleurs cette conférence de Scholem bouleversante, et qui dit, mais cette traduction de la Bible, qui est-ce qui va la lire? Est-ce que c'est le dernier cadeau d'un peuple qui a reçu l'hospitalité, ou au contraire un épitaphe mortuaire? Alors il a voulu faire exactement l'inverse que ce que Mendelssohn avait fait plusieurs générations avant lui, c'est-à-dire que Mendelssohn voulait, par sa traduction de la Bible, faire que les Juifs qui veulent s'intégrer dans une communauté et en Europe apprennent la langue de cette communauté, donc dans le cas de Mendelssohn, l'hébreu, l'allemand de Mendelssohn était écrit avec des caractères hébraïques, afin que justement tous les juifs pieux puissent apprendre l'allemand. Et 5 ou 6 générations plus tard, chez Buber, c'est le contraire. Il faut que les gens lisent l'allemand mais entendent de l'hébreu. Et donc, il a, avec Rosenzweig, fait des performances tout à fait extraordinaires, rentré dans le dur de la langue, pour essayer de tordre l'hébreu jusqu'à la limite de la possibilité pour l'allemand, pour faire entendre de l'hébreu. Et alors, là, malheureusement, il faut le dire en allemand et le lire en allemand. Mais si vous voulez, c'est un peu ce que André Chouraki a essayé quelques années plus tard. Il habitait la même rue que lui, d'ailleurs, Chofevei Tzion. Ce qu'André Chouraki a essayé de faire avec sa traduction de la Bible,
c'est-à-dire en français,
essayer de sinon tordre le cou, du moins bien montrer que la langue avait la plupart du temps d'autres significations que les premières qu'on perçoit. Et dans le cas allemand, c'était absolument central, parce que ces gens-là connaissaient la Bible par Martin Luther et par Jean-Sébastien Bach, quoi, en réalité. Mmh. Hein, et donc, il n'y avait qu'un petit pourcentage de ce qui devait passer de l'hébreu. Et là, alors, à l'époque, ça a été tout à fait extraordinaire. Il y a bien évidemment des contestations, des philologues qui n'étaient pas contents, des gens qui ont trouvé que ça ressemblait à du Richard Wagner, que c'était un peu pompeux, mais elle a été quand même extrêmement citée, utilisée, et maintenant elle est en livre de poche, c'est-à-dire que maintenant il y a de nouveau une nouvelle génération qui s'approprie cette Bible. Cette Bible est en réalité une incitation à apprendre l'hébreu, quoi, quand on y réfléchit un peu, et c'est pas une mauvaise idée. Par exemple, vous voyez, il a jamais voulu utiliser le terme d'esprit, le terme de Geist, parce que pour lui, ça faisait chrétien. C'est vrai que la Bible de Luther était en plus tellement bien traduite, de temps en temps, Rosenzweig lui écrit en disant « Mais on a l'impression d'être invité à notre propre table, tellement c'est juif, tellement Luther connaissait pas très bien l'hébreu, mais les gens qui ont traduit cette Bible avec lui, Mélenchon, etc., savaient ça très bien. » Et donc, vous voyez, il a toujours cette espèce de volonté de revenir à la langue originale, de revenir à l'hébreu, pour que ces juifs reviennent dans ce qui, en réalité, leur appartient d'abord, pas seulement à eux, comme diront les chrétiens, mais leur appartient d'abord.
Et en même temps, on pourrait dire d'une certaine façon que cette façon de traduire, c'est aussi une façon de faire dialoguer le jeu et le tu, puisqu'on fait dialoguer les langues à un niveau extrêmement profond. Merci beaucoup, Dominique Bourrel, d'être venu évoquer la mémoire de Martin Buber ce matin, aux Racines du Ciel. Je rappelle le titre de votre ouvrage, donc consacré à Martin Buber, Martin Buber, Sentinelle de l'Humanité, publié aux éditions Albin Michel. Alors, je ne donnerai pas ici la liste aussi de toutes les œuvres de Buber qui ont été traduites en français, puisque votre bibliographie fait la part belle à tout ce qui existe. Donc, je renvoie nos auditeurs à cette bibliographie dans laquelle vraiment tout ce qui a été traduit de Buber en français est évoqué, y compris d'ailleurs très récemment. Donc, voilà, je renvoie nos auditeurs à cela pour ceux qui voudraient lire et mieux connaître, en fait, l'œuvre de Buber. Je voudrais signaler à nos auditeurs que se tiendra le samedi 9 janvier de 9h à 18h à l'Université interdisciplinaire de Paris un colloque international consacré à science et connaissance. Participeront à cette journée, entre autres, Jean Stone, Emmanuel Ransford, Trinh Duan Tuan ou Thierry Magnin et Cheikh Khaled Bentounes. L'idée étant de mettre en regard, en réalité, ce que la science et la théologie ont à dire sur notre connaissance de l'humain et de la nature. Donc, je rappelle que c'est le samedi 9 janvier, de 9h à 18h, et que l'Université interdisciplinaire de Paris se trouve avenue Georges V, 28 avenue Georges V, dans le 8e arrondissement de Paris. C'était Les Racines du Ciel, une émission de Lilian Var. Tout de suite, nous retrouvons Frédéric Lenoir pour ses chemins de sagesse.
Ce que j'ai dit la semaine dernière de Spinoza, le grand philosophe de la joie et de la liberté intérieure, m'amène à creuser un peu une réflexion plus personnelle sur qu'est-ce qui peut effectivement nous mettre le plus profondément dans la joie. Et Spinoza nous dit, c'est de libérer tout ce qui n'est pas nous-mêmes pour essayer d'être pleinement en acte et que notre nature puisse s'épanouir. Et je crois que c'est une pensée très juste et qu'on pourrait d'ailleurs aujourd'hui, avec la connaissance que nous avons de la psychologie des profondeurs, encore développée. Il y a un autre grand penseur moderne, Carl Gustav Jung, qui nous parle du processus d'individuation. Et effectivement, Jung nous explique que nous sommes de plus en plus, au cours de notre vie, pris par un tas de croyances, d'idées qui ne sont pas nous-mêmes, qui ne correspondent pas à notre conception personnelle, qui ne correspondent pas à ce que nous sommes. Et nous sommes en permanence, depuis la naissance, au milieu d'opinions diverses. Nous recevons les valeurs de nos parents, les croyances de nos parents, de notre éducation, de notre culture, etc. Cela tant à un niveau collectif, ce sont toutes les croyances que nous pouvons qu'une culture véhicule, les croyances en Dieu ou l'athéisme, les croyances spirituelles ou matérialistes, les croyances économiques, toutes les valeurs philosophiques qui sont véhiculées même de manière non explicite par une culture, ce qu'on appelle une épistémé, c'est-à-dire qu'est-ce qui constitue finalement le substrat culturel d'un peuple. Et puis, il y a toutes les croyances personnelles que nous allons recevoir notamment par nos parents. Voilà, tu es beau ou tu es laid, tu es intelligent ou t'es pas intelligent, t'es fait pour ci ou t'es pas fait pour ça. Et donc nous allons recevoir, nous sommes une éponge étant enfant, nous allons recevoir tout ça. Et puis après, on continue de se construire avec toutes ces croyances, toutes ces pensées, toutes ces idées que nous avons reçues de l'extérieur. Et Jung nous dit à un moment donné, lorsqu'on progresse dans la vie, on a besoin de remettre tout ça à plat. Et de refaire un peu la table rase de Descartes, mais il faut le faire avec notre propre vie, et de se poser la question, au fond, qu'est-ce que je crois vraiment? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Et est-ce que j'ai bien orienté ma vie? Et j'ai observé que beaucoup de gens font ce processus d'individuation entre 35 et 50 ans. C'est un moment où on est sorti un peu de l'influence familiale, on a fait sa vie, souvent on s'est marié, on a fait des enfants, on a un métier. Et puis, on se dit, et après? Et après, est-ce que je vais continuer jusqu'à ma mort à vivre comme ça, le nez dans le guidon, élever mes enfants, essayer de les nourrir, avoir une activité? Mais on se pose la question, mais au fond, qui je suis vraiment et qu'est-ce qui me convient vraiment? Qu'est-ce qui est juste pour que je puisse m'épanouir le plus possible? Ce qui fait que beaucoup de gens, c'est ce qu'on appelle la crise du milieu de vie. La crise de la quarantaine, c'est une crise en fait qui est bien souvent liée à ce questionnement existentiel qui a quelque chose de très bon, c'est que on cherche à savoir quelle est notre nature véritable. Alors évidemment, on peut y avoir tout un débat philosophique, chaque être humain a-t-il une nature propre ou est-ce qu'on n'est que le produit d'un environnement et d'un conditionnement social? Moi, je fais partie de ceux qui sont convaincus que chaque être humain a une nature individuelle qui est là dès les premiers instants de sa naissance. Il a une sensibilité, je pense qu'on a un caractère. On voit deux enfants qui ont quelques jours, ils n'ont pas le même caractère. On voit que les petits-enfants, certains sont introvertis, d'autres extravertis, certains aiment la solitude, d'autres ne la supportent pas, certains sont plutôt colériques, d'autres non. Avant même qu'il y ait eu le poids de l'éducation, du formatage, de tout l'environnement. On voit qu'il existe une sensibilité. Alors, d'où elle vient? Est-ce que c'est les gènes? Est-ce que c'est déjà ce qui s'est passé dans la vie intra-utérine? Est-ce que, comme le disent les bouddhistes et les hindous, c'est le fruit d'un karma antérieur, d'un inconscient collectif, comme le croit aussi Jung? Là, les hypothèses sont nombreuses. Il est probable que c'est un peu tout ça. Mais en même temps, on voit bien, et je pense que c'est très juste, et Aristote déjà le soulignait avec force, il y a effectivement autant de nature que d'êtres humains. Donc, il y a des natures individuelles. Ces natures individuelles aspirent chacune à se réaliser selon leur nature. Et Aristote nous dit dans l'éthique à Nicomaque, voilà, quelqu'un qui a un don pour l'intelligence et les concepts, eh bien, il se réalisera et trouvera son bonheur dans le maniement des concepts. Quelqu'un qui est plutôt un manuel, il va trouver son bonheur dans une forme d'artisanat. Quelqu'un qui a un tempérament artistique, il va trouver son bonheur dans le fait de faire un art. Et bien souvent, on a été détourné. On avait envie de faire du piano, du violon, et puis papa était banquier, il nous a dit pianiste, c'est pas un métier, sois banquier comme moi, et puis on l'est devenu. Et à 40 ans, on va se dire, mais au fond, est-ce que vraiment je suis à ma place? Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il est important de s'interroger sur ce qui nous rend heureux, ce qui nous épanouit, et le critère, je pense, c'est ce qui nous met dans la joie. Là-dessus, je reviens à Spinoza, ou à Montaigne, qui l'avait aussi très justement dit, le très bon critère de discernement pour savoir ce qui est juste pour nous ou pas, est-ce que ça nous met dans la joie ou est-ce que ça nous met dans la tristesse? Est-ce que le fait de faire telle activité nous met dans la joie? Est-ce que le fait d'être en relation avec telle personne nous met dans la joie? Est-ce que le fait d'avoir tel mode de vie nous met dans la joie? Pour chaque fois, nous pouvons discerner grâce à la joie est une sorte de signal que notre nature nous envoie pour nous dire qu'on est dans le juste. Et un philosophe dont on reparlera, qui s'appelle Henri Bergson, philosophe français du XXe siècle, a une très très belle expression. Il nous dit la nature nous a donné ce signe pour nous dire qu'on a atteint notre destination. Lorsqu'on a atteint notre destination, on est dans la joie. Ça veut dire qu'on fait vraiment ce qui est bon pour nous. Même si notre mental, même si notre ego nous dit autre chose, on peut être pollué par toutes sortes d'idées qui sont inadéquates, comme dirait Spinoza, mais le fait d'être dans la joie, ça ne trompe pas. C'est un critère infaillible. Et donc, je dirais que une des choses qui nous permet le plus d'être dans la joie, c'est d'être soi-même, devenir soi. Voilà un projet formidable de vie, devenir soi, c'est le fruit souvent de toute une vie. Et donc on est de plus en plus soi-même. Et être soi-même ne veut pas dire se couper des autres, bien au contraire. Mais on ne peut pas être bien relié aux autres si on n'est pas d'abord soi-même. Autrement dit, pour tenir sa place dans l'orchestre, la symphonie du monde, il faut savoir jouer le mieux possible de son propre instrument. Et si on ne sait pas jouer de son instrument parce qu'on ne l'a pas découvert, parce qu'on ne l'a pas rencontré, parce qu'on ne l'a pas travaillé, on sera toujours mal dans sa place. On ne sera jamais bien à sa place. On sera toujours mal dans le monde. On ne trouvera pas comment s'harmoniser avec les autres, comment s'accorder au monde. Et donc finalement, la première chose à faire pour être dans des bonnes relations avec les autres, pour avoir des relations amicales, pour avoir des relations amoureuses de qualité, pour avoir des relations sociales de qualité, pour être utile aux autres dans la société, c'est d'être pleinement soi-même.
Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours. Dans quelques instants, le journal de la rédaction de France Culture. Très bon dimanche à tous.